Les podcasts de l'Institut de France.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis toujours face à Claude Jopard. On va continuer notre analyse de l'intérieur de la Terre, notre voyage au centre de la Terre. J'aimerais que tu m'expliques comment on a pu savoir progressivement l'âge de ces roches, l'âge de la Terre.
L'âge de la Terre, on le connaît de manière précise depuis 1955 seulement. Il y a plusieurs manières de le voir et ça a été l'objet de grandes controverses scientifiques, tout simplement parce que selon les méthodes, on n'obtenait pas le même âge. Dans la Bible, d'après le cardinal, je crois qu'il s'appelait Wilberforce, la Terre avait 6400 ans et 3... Enfin, il est allé jusqu'au nombre d'heures. Donc, c'était un âge de 6400 ans et des poussières, ce que les géologues ne pouvaient pas accepter.
Mais des très grands scientifiques comme Newton acceptaient.
Ah ben, Newton ne pouvait pas faire autrement, parce que lui, il était très, très croyant, bien sûr. Et d'ailleurs, il ne s'intéressait pas à ces problèmes. On se demande d'ailleurs ce qu'il aurait dit s'il s'était intéressé aux problèmes. Parce que dès que des physiciens sont intéressés aux problèmes, ils ont vu que...
Que ça tenait pas la route.
Ça tenait pas la route. Buffon, un scientifique français qui a commencé à aborder le problème, et d'ailleurs qui, à l'époque, était révolutionnaire, puisque tester ce qui était dit dans la Bible, le tester par l'expérience, c'était sacrilège. Donc ça, c'est une grande avancée scientifique. On ne donne pas à Buffon suffisamment de place parce que c'est un moment où quelqu'un a dit « je ne peux pas me fier au texte sacré, je vais aller chercher moi-même comment ça s'est fait ».
Il l'a dit, il l'a écrit.
Alors, est-ce qu'il l'a écrit aussi nettement que ça? Je ne suis pas sûr.
Alors, comment il s'y prenait, Buffon?
Alors, Buffon, il était responsable des fonderies du roi, donc il fondait les obus. Il s'est dit « moi, je vais regarder, la terre est grosse, donc elle peut pas refroidir aussi vite qu'un obus, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais construire des sphères de rayons de plus en plus importants, et puis comme ça, je vais regarder comment ça refroidit, et puis je vais extrapoler à la taille de la Terre. » Donc il a obtenu un âge de quelques centaines de milliers d'années, si je me souviens bien. L'erreur, c'est que la Terre n'est pas faite du métal dont est fait un obus. Donc ça, c'est une première erreur. Et deuxième erreur, c'est qu'il n'y a pas de radioactivité, etc., etc. Il ne pouvait pas le faire. Mais le point essentiel, c'est que c'est la première fois que quelqu'un ose aborder une question de genèse à partir d'une expérience physique, alors que c'était quasiment interdit auparavant.
Donc début 18e?
Oui, c'est ça, oui.
Alors, Buffon, donc, il dit la Bible, ça marche pas, mais par contre, quelques centaines de milliers d'années. Quelle est l'étape suivante?
Alors, l'étape suivante, c'est d'abord les géologues. Comment les géologues ont fait? Ils ont regardé les roches sédimentaires. Vous voyez que les roches sédimentaires, ça s'accumule dans les océans et dans les mers. Donc, ils ont regardé des mers récentes, ils ont regardé l'épaisseur des sédiments. Et donc, ils ont vu que la vitesse moyenne à laquelle ça sédimente, c'est de temps. Compte tenu de l'épaisseur des roches sédimentaires que je vois dans les terrains anciens, je vais pouvoir simplement extrapoler. Je vais dire, puisque ça s'est accumulé à cette vitesse-là, pour obtenir une telle épaisseur, j'ai tel âge. Donc là, ils obtenaient des centaines de millions d'années. Donc c'était évidemment tout à fait énorme par rapport à...
C'était consensuel ou bien il y avait du débat?
Alors, chez les géologues, il n'y avait pas de problème. Il y a une autre méthode qui est intéressante, c'était la méthode du sel dans les océans, et qui était faite par un Suisse, qui s'appelait Joly, c'est très joli. Donc c'est pour montrer que les gens abordaient le problème avec différentes méthodes. Il est évident que quand on a un problème scientifique aussi important, il est judicieux d'avoir des méthodes différentes qui donnent la même réponse, parce que chaque méthode est soumise à incertitude, etc., etc. Donc à l'heure actuelle, j'ai bien déterminé, à l'époque, c'était vraiment des controverses, puisque d'abord, selon les roches sédimentaires qu'on avait, on n'avait pas tout à fait le même âge, ça restait l'objet de grosses controverses. Vient Monsieur Kelvin,
Lord Kelvin,
Thomson Lord Kelvin, était persuadé que la Terre était formée chaude, c'était une hypothèse.
Ce qui est correct.
Qui est correct, mais à l'époque, la démonstration de ça. Par contre, il savait que lorsqu'on s'enfonce dans la Terre, les températures augmentent, donc il y a un gradient thermique.
C'est quelle époque, alors, ça, c'est
Kelvin, c'est 1870, par là.
Donc c'est à peu près en même temps que Jules Verne.
Ah, tout à fait, tout à fait. Oui. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que c'est étonnant de voir la vivacité des débats et puis le fait qu'on arrive à des bonnes conclusions avec des raisonnements assez simples, et c'est assez fascinant, et que et des raisonnements plus sophistiqués conduisent à des résultats erronés. C'est intéressant de voir que c'était les raisonnements les plus simples qui étaient les plus robustes. Kelvin lui a dit, puisque je vois un gradient à la surface de la Terre, les températures sont de plus en plus importantes, le long d'un gradient thermique, j'ai de la chaleur qui s'échappe. C'est la loi que Fourier avait établie quelques dizaines d'années auparavant. Et donc Kelvin a dit, puisque je connais le gradient, je connais la chaleur qui est perdue à l'heure actuelle, je vais prendre une Terre qui est chaude au début, je me mets à la refroidir par sa surface, parce que c'est la seule manière que j'ai de la refroidir, et je vais regarder comment ce refroidissement se propage. Et donc grosso modo, quand on refroidit un corps, ce qu'on appelle un mécanisme de conduction, ce que je fais, c'est que je vais le refroidir sur une épaisseur de plus en plus grande. C'est ce qu'on voit quand on fait un rôti de bœuf et qu'on le met au four. Si je le mets très peu de temps au four, j'ai une petite pellicule qui a été refroidie, qui a été chauffée, qui a été déshydratée, qui est brune. Si je le mets très longtemps, tout est brun et c'est de la semelle de botte. Donc en fait, je vois qu'au fur et à mesure que je refroidis ou que je chauffe, je fais propager un front de température dans le milieu. Et donc puisque j'ai le gradient que je connais, je peux faire une hypothèse sur la température du milieu, et je vais déterminer depuis combien de temps ça s'est refroidi.
Et il trouve combien ?
Il trouve près 100 millions d'années.
100 millions d'années.
Il y a deux choses qu'on peut dire à ce sujet. Un, c'est que ce calcul est exact parce qu'il reprend parfaitement ce qui se passe dans les océans. À l'époque, il pouvait pas le savoir, mais il avait résolu le problème du refroidissement des océans. La deuxième chose, que c'est erroné pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il a pas assez fait attention aux mesures. Il a regardé deux ou trois données. Comment il voyait le gradient de température? Il avait quelques mines qui avaient été faites dans différents coins du globe et il savait qu'à telle profondeur, il y avait telle température.
Pas un degré de tous les 100 mètres ou...
Ça varie beaucoup. Et c'est ça qu'il a pas regardé. Donc, il aurait dû regarder. Et en fait, déjà, dès à l'époque, il aurait vu que ce gradient de température, il était extrêmement variable, en fait. Donc, lui, il a pris une espèce de valeur moyenne. Donc, il s'est dit, soit les gens sont idiots, ils savent pas mesurer la température, et donc les variations que je vois sont liées à des erreurs de mesure, soit je m'en fiche, et je vais donc simplement une valeur moyenne sans me préoccuper du fait qu'en fait, l'écart entre les différentes mesures était énorme. Donc ça, c'est l'erreur qu'on peut lui reprocher. Une fois qu'il a fait ça, il a obtenu l'âge de la Terre qui est environ 100 millions d'années.
Mais il a oublié, ou ça, il ne pouvait pas connaître, bien sûr, la radioactivité.
Alors, il avait oublié deux choses. Le fait que la Terre ne refroidit pas par conduction, la Terre bouge.
Et la convection, il devait connaître quand même.
Les premières études de convection, ça vient à peu près à ce moment-là. Les gens savaient que ça existait, mais n'avaient pas réalisé la compréhension de ça. La première étude de la convection, c'est Lord Rayleigh, 1905. Donc, les gens avaient déjà vu que ça existait.
Il faut être Lord pour faire de la géophysique ?
Non, je crois qu'il faisait d'abord de la géophysique, il devenait Lord ensuite. Donc il faut plutôt faire de la géophysique pour devenir Lord. Qu'est-ce qui se passe quand il y a de la convection ? On peut imaginer que j'ai une pellicule, un toit ou une couverture que j'ai à la surface de la Terre. En fait, dans cette couverture-là, ça ne bouge pas. Et donc, j'ai de la conduction. La chaleur se transmet tout simplement par vibration à travers le solide. En dessous, j'ai un liquide qui se mélange et qui reste à température homogène. Donc, en fait, si c'est ça le mode de refroidissement, j'ai quelque chose qui est un réservoir énorme de chaleur, qui est sans arrêt brassé et qui est capable de maintenir les températures élevées pendant très longtemps. Et donc, ça se refroidit beaucoup moins bien que par la conduction telle que Kelvin l'imaginait. Bon, il ne pouvait pas savoir ça. À l'époque, c'était impossible. Après, les gens, quand ils ont compris qu'il y avait de la convection, c'était un premier point. Et ça, c'est un géologue qui s'appelait Holmes qui a compris que c'était important de tenir compte de ça. Holmes avait aussi compris l'intérêt de la radioactivité. C'est intéressant de voir que dès que la radioactivité a été inventée, les gens ont compris l'intérêt pour la Terre. C'est un Lord Kelvin, je ne sais plus combien il y en a des Lord Kelvin qui se succédaient les uns après les autres.
La même famille ?
Oui, c'est la même famille, Kelvin numéro 3, je ne sais plus, qui a compris l'intérêt pour les roches et qui très rapidement a compris qu'en fait, une bonne partie de la chaleur que l'on mesurait qui s'échappait de la Terre pouvait provenir de la radioactivité.
C'est majoritaire ?
Alors, c'est à peu près la moitié. Donc évidemment, on peut pas, si on oublie la moitié, on n'a pas le bon refroidissement. Très rapidement, ils ont compris l'intérêt pour la géologie de la radioactivité. Holmes a étudié la désintégration de l'uranium, par exemple. En disant, comme il y a plusieurs types d'éléments qui se désintègrent d'une chaîne de l'uranium, il a regardé la systématique de toutes ces désintégrations radioactives, il a déduit un âge de la Terre qui devait être de l'ordre de 2 milliards d'années.
Là, on progresse.
Déjà, c'était révolutionnaire. Et en plus, ce qu'il a fait Holmes, c'est de dire, j'ai une Terre qui bouge, il voyait bien que ça bouge, c'est de la convection. Donc à ce moment-là, il a introduit l'idée d'une Terre en mouvement qui avait à peu près 2 milliards d'années, ce qui est quasiment l'image qu'on a à l'heure actuelle. Et ça, c'est 1935. Holmes était très contesté par les grands géophysiciens de l'époque. Et c'est intéressant de voir comment se développait la controverse. Le grand mathématicien de l'époque, c'était Harold Jeffreys.
Comme Kelvin.
Oui, auquel on doit d'énormes découvertes. Hein. Mais il s'est planté. Jeffreys disait, votre idée de convection, c'est idiot, puisque, en fait, dans la Terre, je propage des ondes S. Puisque je propage des ondes S, c'est pas liquide, donc ça ne convecte pas. Donc le fait que ça bouge, c'était pas trop son problème. Il dit, ça bouge, c'est les géologues qui disent que ça bouge. Ce qu'il pensait à l'époque, c'était de la contraction thermique. Il acceptait que ça se refroidissait. Donc c'est un peu comme une pomme qu'on laisse longtemps dans son grenier. Bah, la pomme, elle va finir par se dessécher, et sa peau va se contracter, elle va faire des rides. Et donc il pensait que le relief, c'était ça. Donc voilà, et puis ça n'intéressait pas beaucoup. Grosse controverse, il y a des lettres intéressantes entre Holmes, Jeffreys, et il se trouvait que Holmes n'était pas à Cambridge, Jeffreys était à Cambridge, et donc ça c'était déjà une première source de controverse. Voilà. En tout cas c'est des débats civils, hein, les gens, mais c'était des débats scientifiques fondamentaux, c'était intéressant. On doit à Jeffreys la première détermination à peu près exacte de la structure de la Terre, en croûte, noyau, manteau. C'est lui qui a utilisé les données sismiques. Donc c'était un mathématicien, on lui doit des théorèmes sur les tenseurs, hein, des choses comme ça. Donc c'est pas du tout un physicien expérimental. Il était soucieux de déterminer l'intérieur de la Terre. Donc il a pris toutes les données sismiques de l'époque, et en utilisant ça, il a fait une grosse analyse pour déterminer la structure de la Terre. C'est ce qu'on appelle la structure de Jeffreys Bullen. Bullen qui était son étudiants, et grosso modo, ce qu'ils ont, ça reste valable encore à l'heure actuelle. C'est quelque chose qu'ils ont fait en 1935, je crois, donc qui est remarquable, puisque ça tient encore là.
Et alors donc, 1935 et jusqu'à aujourd'hui?
Alors qu'est-ce qu'on fait depuis? Eh bien, on s'intéresse aux détails. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est pour ça qu'il y a un problème en sciences de la Terre, c'est quand il y a le géologue de terrain, lui commence par le détail, et donc il a du mal à comprendre la plus grande échelle. Et à l'inverse, les physiciens et les théoriciens, ils voient d'abord la grande échelle, et ils ne s'intéressent pas aux détails. Moyennant quoi, ce qu'ils disent, ça peut pas être compris par les géologues qui voient le détail. Inversement, le géologue, ça n'intéresse pas d'avoir une image globale, puisque lui, il veut savoir d'où vient sa roche. Donc ça, c'est un des gros problèmes en géologie, c'est que ces deux communautés, en fait, sont restées séparées très longtemps, et il a fallu attendre les années 70 hein, pour que ces deux communautés se parlent, prennent qu'elles ne peuvent pas travailler correctement si elles n'échangent pas. De 1935 à 1970, la première chose qu'on fait, c'est dater la Terre, ça c'est important, basé sur la désintégration des éléments radioactifs. Donc Harold Urey, qui a eu le prix Nobel de chimie pour la découverte, je ne sais plus de quel élément radioactif, a développé les premiers spectromètres de masse, et dès qu'on a eu les spectromètres de masse, on a vu qu'il y avait des désintégrations radioactives, et c'est comme ça qu'on pouvait dater les roches. Ça a changé complètement les choses, donc l'histoire des continents est beaucoup plus complexe que ce qu'on imaginait, il y a des continents jeunes, des continents vieux, et donc ça a changé, et ça dure jusqu'en 1960 à peu près.
Et là, on est à quelle estimation de l'âge de la Terre?
Alors l'âge de la Terre, il est défini correctement à partir de, ça c'est un monsieur qui s'appelait Patterson, qui a utilisé l'isotope du plomb, et il a étudié les météorites, et il a étudié les roches les plus anciennes de la Terre, et il a vu que tout ça pouvait être expliqué par quelque chose qui démarrait il y a 4 550 000 d'années. C'est 1955.
Et aujourd'hui, on est à peu près à la même estimation?
Alors, on l'a raffiné, ça reste 4,55, maintenant on est à la décimale d'après.
Quand on parle de l'âge de la Terre, on doit parler aussi de sa naissance. Et donc, à la naissance, c'est donc il y a plus de 4,5 milliards d'années. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des petits bouts de cailloux qui s'agglutinent, qui s'accrètent, comme on dit. Au début, c'est quoi?
Y a d'abord ce qu'on appelle dans le disque...
Protoplanétaire.
Protoplanétaire, il y a la condensation qui se fait. Donc, on a la matière qui est diffuse, mais qui finit par se condenser, former des différents atomes. Donc on forme...
Et là, c'est comme un gaz ou...
Ah ouais, c'est un gaz plus de la poussière.
Formé de quoi?
Ah bah c'est formé de toute la matière qu'il y a dans le système solaire.
Alors, mais quel genre d'atomes?
Alors, les atomes les plus abondants, c'est l'hydrogène, l'hélium, l'oxygène, l'azote, etc. Donc en fait...
Les petits, quoi.
Alors oui, mais tous ces éléments-là, en fait, ils vont se désintégrer, etc., à très haute température. Et donc on fait la chaîne de tous les éléments à partir de ces éléments essentiels, hein. L'hydrogène a formé de l'hélium, etc.
Ça, c'est encore avant que la Terre ne se forme. On est ça, encore dans une espèce d'anneau plat, comme ça, qui tourne autour de...
Alors, il est pas tout à fait plat, il a une épaisseur, mais oui, c'est une sorte de disque oui, d'une certaine épaisseur. Oui. Alors, c'est des problèmes intéressants, parce que c'est un disque qui est animé d'une rotation. Et la rotation, ça nous aide à comprendre pourquoi les planètes tournent encore à l'heure actuelle. Mm-hmm. Mais la rotation initiale, on ne sait pas d'où elle vient. Donc ça, c'est un problème intéressant, mais qui...
C'est pas juste une préservation du moment cinétique?
Mais si, mais il a fallu le créer au début. Et d'où est-ce qu'il vient? C'est ça, la question.
Alors, ça se passe à quelle époque? Il y a combien de temps, ça?
L'âge de l'univers, tel qu'on peut le concevoir, ça a été déterminé de plusieurs méthodes, mais c'est 13 milliards et des poussières.
Mais l'âge du disque protoplanétaire...
Alors, le disque protoplanétaire, ça vient des choses assez rapidement. Hein. C'est, là, je veux dire des bêtises, parce que ça change sans arrêt. C'est peut-être quelques centaines de millions d'années avant les 4 milliards 55.
La Terre se crée rapidement, finalement.
Ça va assez rapidement. Une fois que j'ai ce disque-là, les choses vont aller assez vite. Oui.
Quand on dit l'âge de la Terre est de 4, et beaucoup de chiffres après la virgule, on a une grande précision parce qu'on sait exactement ce que ça veut dire. La Terre est là, alors qu'il y a une heure, elle n'était pas.
Ça veut dire que la matière qui était dans le disque est descendue au-dessous d'une certaine température.
Merci Claude.
Vous avez écouté de Arvo Pärt, Spiegel im Spiegel, pour violon et piano. Le violon, c'est J. Jung Park, et le piano, c'est Catherine Courneau.
C'est pas fini, on va continuer à l'épisode suivant.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.